Chapitre 2. Un juge d'instruction est toujours un gros personnage, car c'est lui qui joue le premier rôle dans les affaires criminelles. Il tient entre ses mains le sort des accusés et il jouit d'une indépendance absolue. Mais quand ce juge est un homme considérable par sa situation personnelle, il prend encore plus d'importance et ses supérieurs hiérarchiques reconnaissent pleinement son autorité. C'était le cas de M. Hugues de Malverne, issu d'une vieille famille de robes, possesseur de 80 000 francs de rente et mari d'une femme charmante, dont le salon comptait parmi les mieux fréquentés de Paris. Bien posé dans le meilleur monde, ce magistrat modèle avait toutes les qualités nécessaires pour remplir les délicates fonctions qui lui étaient confiées, une impartialité absolue, un sang-froid à toute épreuve, et une sagacité remarquable. Aussi le désignait-on de préférence pour instruire les affaires difficiles et délicates comme celle des tours de Notre-Dame. Il en avait été saisi immédiatement et le lendemain du crime, à midi, il était déjà au palais, dans son cabinet, prêt à interroger l'homme arrêté et à entendre les témoins cités le matin même. En attendant qu'ils comparussent, il s'entretenait avec le commissaire de police qui venait de lui rendre compte des faits, et il ne paraissait pas très satisfait de ce compte-rendu. « Il me semble, dit-il froidement, que vous n'auriez pas dû procéder ainsi. Il se peut que vous teniez le coupable, mais il se peut aussi que vous ayez commis une erreur en arrêtant cet homme. » Rien ne nous prouve que ce soit lui, rien ne prouve même qu'il y a eu crime, et nous sommes peut-être en présence d'un suicide. Il aurait fallu commencer par visiter les tours et les combles de Notre-Dame. Vous vous seriez assuré que personne ne s'y était caché, car enfin d'autres que l'inculpé ont pu y monter. La visite a été faite, monsieur le juge d'instruction, répondit le commissaire. Je l'ai dirigé moi-même après avoir écroué l'homme qui refusait de dire son nom. C'était trop tard, un autre a eu tout le temps de s'échapper. Ah pardon, monsieur, j'avais laissé des agents au bas de l'escalier. Je puis affirmer que personne n'est sorti avant mon arrivée. La fille du gardien en déposera. J'ai inspecté minutieusement toute la partie supérieure de l'église, les tours, les galeries, les toitures. Et je n'ai rien trouvé. Et sur la plateforme d'où cette femme est tombée, il n'y avait pas de traces de lutte? Aucune. Du reste, le coup a dû être fait par surprise. D'après le témoignage de ce peintre qui a vu de loin la scène, la femme accoudée sur la balustrade a été empoignée par les jambes, enlevée et basculée dans le vide avant d'avoir pu se défendre. Tout ce que j'ai découvert de suspect, c'est une porte ouverte, une petite porte située sur une galerie étroite qui circule autour du toit de la nef. Il paraît que cette porte est toujours fermée, mais on ne s'explique pas comment un homme venant des tours aurait pu arriver jusque-là. Il aurait eu des abîmes à franchir. Bon, mais en admettant qu'il l'ait fait, où ce chemin l'aurait-il conduit ? Un escalier intérieur qui passe sous la charpente de la cathédrale et qui aboutit au pavé derrière le chœur. Donc quelqu'un a pu fuir par là. Oh, c'est tout à fait improbable. Et il suffit que ce soit possible pour que je doute de la culpabilité de votre prisonnier. Et en somme, jusqu'à présent, il n'y a contre lui que des indices. Des indices très graves, monsieur le juge d'instruction, quand ce ne serait que le refus de dire son nom. Oui, de le dire à vous, mais il me le dira peut-être à moi. Il peut avoir des raisons pour ne vouloir parler que devant le juge d'instruction. Mais il a bien laissé entendre, oui, qu'il était avec sa maîtresse, qui est une femme mariée. On comprendrait encore qu'il refusât de la désigner, mais il aurait pu se nommer lui sans la compromettre. Il est peut-être tellement lié avec le mari qu'en se nommant, il attirait des soupçons sur elle. Assurément, il n'est pas assez naïf pour croire que la justice ne viendra pas découvrir qui il est. Il me l'apprendra parce qu'il espère que, si son innocence est reconnue, je garderai le secret sur cette aventure. À la description que vous m'avez faite de sa personne, ça doit être un homme du monde. Je le crois, mais il a pris une singulière précaution avant de sortir de chez lui hier. On l'a fouillé lorsqu'il est entré au dépôt, c'est réglementaire. Et l'on n'a trouvé sur lui ni portefeuille, ni carte de visite, ni papier d'aucune sorte. Rien qu'une vingtaine de louis dans la poche de son gilet. On dirait qu'il avait prévu qu'on l'arrêterait ce jour-là et qu'il s'était mis en mesure de garder l'incognito. En effet, c'est assez bizarre, mais ce n'est pas concluant. Et la femme ne portait rien non plus. Des bijoux d'une assez grande valeur, mais pas un sou et pas le moindre bout d'écrit. Elle est bien habillée, elle a du linge très fin, et sur le boîtier de sa montre, il y a une initiale surmontée d'une couronne de comtesse. Les mains sont blanches et les pieds très petits. Le visage est méconnaissable. N'importe, vous la ferez exposer à la morgue. Elle l'est depuis ce matin. Et l'on dit qu'il y a déjà foule, mais je doute qu'on la reconnaisse. Elle est trop défigurée. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de procéder à l'autopsie. Non, c'est tout à fait inutile. Il ne s'agit pas ici de déterminer la cause de la mort. Quel âge paraît avoir cette femme? 30 ans, peut-être un peu plus. Et l'homme arrêté? 34 ou 35 ans. Il y a des chances pour que ce ne soit pas le mari. Mais c'est l'amant, tout l'indique. Mais il y a un mari, et ce mari s'apercevra de la disparition de sa femme. Il n'est pas impossible qu'il vienne à la morgue, car il doit lire les journaux. Et il y verra le récit de l'événement. Oui, s'il est à Paris, mais je ne serais pas surpris que la femme fût étrangère. Sa toilette est riche, mais elle n'a pas le chic parisien. Et l'initiale gravée sur sa montre est un X. Mais en effet, je ne vois guère en français que Xavier, qui commence par un X, et Xavier est un nom d'homme. Avez-vous pris des renseignements sur les témoins que j'ai fait citer? Oui, monsieur le juge d'instruction. L'un est un interne à l'Hôtel Dieu, très laborieux, très instruit, très estimé de ses chefs et très aimé de ses camarades. L'autre est une espèce d'original, un noble breton, qui s'est fixé à Paris depuis quelques années. Il mène une vie très régulière et il jouit dans son quartier d'une excellente réputation. Oui, ceux-là n'ont vu que le couple traversant le parvis, mais le troisième, celui qui prétend avoir vu commettre le crime. C'est un peintre sans ouvrage, un pauvre diable, qui habite un taudis au 5e étage d'une vieille maison de la rue de la Huchette. Mais il ne paraît pas qu'il se conduise mal. Je me suis assuré qu'il n'y a rien à son casier judiciaire. Ce n'est pas assez pour que je croie sur parole à sa déposition. Et en résumé, toute l'accusation repose sur son témoignage, car il n'avait pas raconté une histoire qu'il a peut-être tirée de son imagination. Tout le monde aurait cru au suicide. C'est vrai, monsieur le juge d'instruction, mais il paraît de bonne foi et... D'ailleurs, quel intérêt a-t-il à inventer? Le désir de faire parler de lui, et puis il a pu se tromper à la distance où il était placé. Enfin, je l'interrogerai, je verrai bien si l'on peut avoir confiance dans ses affirmations. Mais je vais d'abord entendre l'inculpé, et je pense qu'après l'avoir entendu, je saurai ce qu'il y a au fond de cette affaire. Vous n'avez plus rien à me dire? Rien, monsieur, si ce n'est que le gardien des tours fait fort mal son métier. S'il n'eût pas été ivre, il n'aurait pas oublié de fermer la grille de l'escalier, et nous saurions qui est entré et qui est sorti. Si l'instruction n'aboutit pas, ce sera la faute de ce Verdière. Vous ferez fort bien de signaler sa négligence et de demander sa révocation. J'entendrai aussi sa fille après les autres témoins. Maintenant, monsieur, je ne vous retiens plus. J'ai fait demander l'inculpé au dépôt. Veuillez en passant dire au garde de Paris, qui est de planton à la porte de mon cabinet, de faire entrer cet homme dès qu'on l'amènera, et de le faire entrer seul. Le soldat chargé de le surveiller restera dans le couloir. Le commissaire s'inclina et sortit, laissant le juge en tête à tête avec son greffier, qui bâillait dans un coin en taillant ses plumes. Ce greffier était un vieux bonhomme, blanchi sous le harnais, qui remplissait machinalement ses modestes fonctions et qui se préoccupait fort peu des demandes et des réponses qu'il enregistrait. Cependant, M. de Malverne crut devoir lui dire « Vous n'écrirez qu'au moment où je vous ferai signe. Il n'est pas impossible que l'inculpé se justifie immédiatement, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'instruction. Tout se bornerait à un entretien dont il serait inutile de dresser un procès-verbal. » « Très bien, monsieur, » répondit le greffier avec une parfaite indifférence. Si monsieur de Malverne donnait cet ordre, c'est qu'il était tout disposé à reconnaître l'innocence de l'homme arrêté. Il prévoyait que cet homme allait enfin se nommer, s'expliquer, et l'accusation mal échafaudée tomberait d'elle-même. Dans ce cas, à quoi bon consigner par écrit des réponses qui compromettraient une femme mariée ? Il suffirait de s'assurer que cette femme était encore vivante et que par conséquent son amant n'avait sur la conscience d'autre crime que celui de tromper un mari. Il n'y aurait même pas besoin de rendre une ordonnance de non-lieu pour remettre en liberté un galant homme victime d'une méprise. Si, au contraire, l'inculpé persistait à refuser toute explication, ce serait le moment de procéder à l'interrogatoire en règle. La lutte s'engagerait et le juge comptait bien avoir le dessus. À tout événement, il prit son air de magistrat, un certain air qu'il s'empressait de quitter en sortant du palais, qu'on ne lui voyait jamais dans un salon. Il était sous les armes lorsque la porte s'ouvrit. Un monsieur entra seul et s'avança lentement jusqu'à la table derrière laquelle siégeait M. de Malverne, qui s'écria « Comment ? Oh, c'est toi, mon vieux Jacques ! Mais quelle mouche te pique de venir me relancer au palais à l'heure où je vais interroger un accusé ? Bon, oh, j'y suis, tu viens t'excuser de n'avoir pas dîné avec nous hier. Nous t'avons attendu jusqu'à 8 heures. Oh, ma femme était furieuse contre toi, et je crois bien qu'elle t'en veut encore. » Le monsieur, que le juge d'instruction venait d'appeler familièrement par son petit nom, recula de surprise en reconnaissant M. de Malverne, et ne put que balbutier « Comment, c'est toi qui ?»« Eh, parbleu, oui, c'est moi. Est-ce que tu t'attendais à trouver ma femme dans mon cabinet ?» demanda le magistrat en riant au nez de son ami. Et comme l'autre restait plongé dans une stupéfaction qui lui ôtait l'usage de la parole, « Mais voyons, explique-toi, tu n'es pas venu ici sans motif, et je devine à ton air qu'il s'agit d'une chose grave. Je suis prêt à t'entendre, quoique je sois fort occupé en ce moment. Je m'étonne même qu'on t'ait laissé entrer. Mais tu es bien fait de forcer la consigne, l'amitié passe avant les affaires criminelles. » « Parle donc, mon cher, à quoi puis-je être bon ?» Et comme l'ami persistait à se taire, « Ah, je devine, tu comptais me trouver seul, oh, que cela ne tienne. Laissez-nous pilois, » dit M. de Malverne en s'adressant à son greffier. « Je vous ferai appeler quand j'aurai besoin de vous. Ne vous éloignez pas. » Le bonhomme s'empressa de sortir et le juge reprit. « Bon, maintenant nous sommes seuls. Tu peux me faire sans inconvénient les confidences les plus délicates. Et d'abord, apprends-moi d'où te vient cet air consterné. Que t'est-il arrivé ?»« Oh, il est impossible que tu l'ignores, » répondit Jacques avec effort. « Et comment diable saurais-je ? J'ai beaucoup pesté contre toi hier soir en ne te voyant pas. Odette a prétendu que tu devais être à tout de moins cassé la jambe, car tu es habituellement d'une exactitude exemplaire. Nous attendions un mot d'excuse ce matin et rien n'est venu. Mais j'ai eu le temps d'oublier cette histoire, et il m'est tombé sur les bras une instruction inattendue. J'ai dû déjeuner au galop et accourir au palais. Il s'agit d'une affaire très curieuse qui peut devenir très grave. J'attends un monsieur inculpé d'assassinat. Je viens de l'envoyer chercher au dépôt. La porte s'ouvre, je croyais qu'il allait paraître, mais pas du tout, c'est toi qui entres. Tu conviendras que j'ai le droit de m'étonner et de te demander le mot de cette énigme. Mais l'homme que tu attends, l'homme qu'on a arrêté hier, c'est moi. Monsieur de Malverne changea de visage et dit en regardant fixement son ami ben, « Est-ce que tu te moques de moi ou bien est-ce que tu deviens fou ?»« Ben, ni l'un ni l'autre. Si tu ne me crois pas, fais appeler le garde de Paris qui est venu me prendre au dépôt et qui m'a amené ici les menottes aux mains. » Alors tu as passé la nuit en prison, mais comment n'as-tu pas eu l'idée de te réclamer de moi ? Elle m'est venue, mais je l'ai rejetée. Je ne doutais pas de ton relâche aujourd'hui, après l'interrogatoire du juge d'instruction. Je préférais te cacher cette sotte aventure. Je ne supposais pas que le juge d'instruction, ce serait toi. Fort heureusement, car tu pourras tout me confier à moi, à ton ancien camarade et ton meilleur ami, tandis qu'il t'en aurait coûté de dire toute la vérité à un de mes collègues. Je t'approuve du reste de ne pas l'avoir dit au commissaire. Dans les cas comme le tien, on ne saurait être trop réservé, puisque l'honneur d'une femme est en jeu. Tu connais donc déjà les faits ? Par le menu. Le commissaire vient de me faire son rapport. Je sais que tu as refusé de lui répondre et même de lui dire ton nom. Je n'ai eu aucune peine à deviner pourquoi, même avant de savoir qu'il s'agissait de toi. Bon, maintenant, je suis fixé. La personne qui était avec toi est mariée et tu as songé avant tout à sauver sa réputation. M'aurais agi comme tu l'as fait si je m'étais trouvé en pareil cas. Mais ta générosité aurait pu te coûter cher. Se laisser accuser d'assassinat plutôt que de compromettre une femme, c'est héroïque. Ah ça, tu as donc une liaison sérieuse ? Trop sérieuse, tu le vois. Eh bien, je ne m'en doutais pas. Je croyais que tu te contentais d'amourer de passage comme autant nous étions jeunes. Je faisais mon droit et tu venais de sortir de l'école militaire pour devenir garnison à Paris. Nous avons changé tous les deux, je me suis marié. Et toi, tu trompes les maris, chacun son goût. J'aime ma femme et ça ne m'irait pas du tout d'être obligé de me cacher pour voir une maîtresse. L'adultère est puni par le code pénal, mon cher. On risque quelquefois 2 ans de prison. Et tu viens de risquer bien pis, la mort ou les travaux forcés. Il est vrai que tu as joué de malheur. Grimper sur les tours de Notre-Dame pour y chanter un duo d'amour et arriver juste au moment où l'on en précipite une malheureuse, c'est le comble de la guigne. Alors, tu ne m'accuses pas de l'avoir assassiné ? Oh non, Serge, je te connais trop bien pour admettre que tu as commis un crime quelconque. Il n'est plus question maintenant d'interrogatoire et je me félicite d'avoir envoyé mon greffier. Nous allons causer comme deux vieux amis. Assieds-toi donc. Je ne t'offre pas de cigare parce que ce n'est pas l'usage de fumer ici. Je ne vois pas trop ce qui perdrait la dignité de la magistrature, mais enfin, c'est comme ça. Le ton de M. Malverne était bien fait pour rassurer l'ami Jacques. Cependant, Jacques restait soucieux et préoccupé. Évidemment, il comprenait que le juge, si favorablement disposé qu'il fût, n'allait pas s'en tenir à ses discours affectueux, et il prévoyait des questions embarrassantes. Voyons, reprit M. de Malvern, il faut que tu me renseignes sur cette stupide affaire avant que je te renvoie chez toi. Tu ne seras pas fâché d'y rentrer après une nuit passée dans une cellule du dépôt. Oh oui, dis donc 20 heures qui m'ont semblé fort longues. Enfin, du moins, ton nom ne figure pas sur le registre d'écrou, et personne ne saura jamais que Jacques de Saint-Briac, capitaine de cavalerie démissionnaire, a couché au dépôt de la préfecture comme un simple joueur de bonneteau. Alors, tu ne diras pas à ce commissaire de police qui m'a arrêté. Oh, c'est un de mon nom. Il est sous mes ordres et je n'ai pas de compte à lui rendre. D'ailleurs, je suis seul responsable des décisions que je prends. J'ai le droit de jeter au feu le procès-verbal et de te dire « Allez en paix ». J'ai même le droit de t'inviter à dîner pour ce soir. « Je n'irai pas », dit vivement Jacques de Saint-Briac. « Pourquoi donc ? Odette sera ravie d'entendre de ta bouche le récit de tes malheurs, et à moins que tu ne sois engagé ailleurs. Maintenant, explique-moi comment les gens qui t'ont signalé aux agents ont pu te prendre pour un autre, car il y a un coupable, c'est pas douteux. Mais sur mon honneur, je n'y comprends rien. J'ai été arrêté dans l'escalier de la tour. On m'a conduit à l'hôtel Dieu, et l'on m'a mis en présence du cadavre défiguré d'une femme que je ne connais pas. On m'a dit alors qu'on m'accusait de l'avoir précipitée de là-haut. Et que voulais-tu que je répondisse ? Je n'avais pas vu la chute et je ne voulais pas dire avec qui j'étais monté. Naturellement, oui, mais avoue que tu as eu là une idée bizarre de mener ta compagne sur les tours de Notre-Dame. Mais c'est elle qui l'a voulu, nous nous étions donné rendez-vous à l'entrée du parvis. Oui, oh, vous choisissez de préférence des quartiers où vous ne risquez pas d'être rencontrés par des gens de votre monde. Car c'est une femme du monde, n'est-ce pas ? Du meilleur. Et elle a tant de ménagements à garder qu'elle tremble sans cesse d'être reconnue quand nous sortons ensemble. Est-ce que vous n'en êtes encore qu'aux promenades sentimentales ? À peu près. Elle n'est jamais venue chez moi. Elle est rarement libre. Hier, nous devions aller du parvis au jardin des plantes, par les quais déserts. Puis, elle a pensé que nous serions encore plus isolés sur les tours. À ce moment-là, on n'y voyait personne. Peste, c'est une fantaisiste, ta maîtresse. Et quand tu la reverras, je te conseille d'insister sur le terrible danger que tu as couru par sa faute. Si tu étais tombé sur un autre juge que moi, je ne sais pas trop comment tu te serais tiré de là. Allez, continue ton récit de voyage. Vous êtes monté, vous n'avez pas rencontré le gardien dans l'escalier. Nous n'avons vu qu'une jeune fille qui ne nous a rien dit. Il y avait bien une grille, mais elle était ouverte. Alors nous sommes arrivés sans autre incident sur la galerie qui domine la rosace du portail. Et vous vous êtes arrêté là. Elle était fatiguée. Non, ce n'est pas cela. En levant les yeux, j'ai aperçu deux têtes qui dépassaient la balustrade sur le faîte de la tour. Un homme et une femme ? Je crois que oui, mais je n'en pourrais pas jurer. Les deux têtes n'ont fait que paraître et disparaître. Ah, il vous avait aperçu. Et l'homme avait ses raisons pour se cacher. C'est probable. J'ai pensé depuis que l'assassin, c'était lui, mais je n'ai songé alors qu'à l'impossibilité de monter plus haut sans nous trouver face à face avec ces gens-là. Oh, il faut que vous soyez tous les deux de fiers étourneaux pour ne pas avoir prévu ce contretemps. 20 personnes par jour montent sur Notre-Dame, surtout quand il fait beau, et hier le temps était superbe. Alors, vous êtes restés sur la galerie, Ou plutôt, tu es resté car la dame est partie seule. Mais pourquoi n'êtes-vous pas descendu en même temps ? Mais mon cher Hugues, tout est fatalité dans cette malheureuse histoire. Mon amie avait acheté, en sortant de chez elle, une de ces voilettes bleues que portent volontiers les Anglaises et qui sont épaisses comme des masques. À travers cette voilette rabattue sur son visage, son mari ne l'aurait pas reconnue dans la rue. C'était donc sa principale sauvegarde. Sur la galerie, elle l'a relevée, les cordons s'étaient mal attachés et le vent qui soufflait très fort l'a emporté. « Les malheurs d'un amant heureux !» dit en souriant M. de Malverne. « Oui, mais celui-là était irréparable. Comment continuer notre promenade à visage découvert ? Il nous restait bien la ressource de prendre une voiture. Mais encore fallait-il en trouver une, et elles sont rares dans la cité. Alors d'un commun accord, nous avons décidé de nous séparer immédiatement. » Elle est descendue en toute hâte et un quart d'heure après, j'en ai fait autant. Mais elle m'en a pris d'avoir tant tardé, car on m'a mis la main au collet dans l'escalier. Tu sais le reste. Parfaitement, et maintenant je devine ce qui s'est passé. Pendant qu'on te conduisait au dépôt, le brigand qui a fait le coup s'était caché dans quelque coin. Les imbéciles qui t'ont empoigné n'ont pas songé à visiter les combles de l'église. Et il a fini par un escalier qui aboutit derrière le cœur. La personne qui t'accompagnait se porte à merveille. Et je puis très bien prendre sur moi de te remettre en liberté, d'autant que rien ne t'empêche maintenant de me dire qui elle est. Te dire qui elle est, non mais... Tu sais bien que je ne puis pas. Je me suis laissé mettre en prison plutôt que de la nommer. Au commissaire de police, il a eu 100 fois raison. Il aurait couché le nom sur son procès-verbal. Mais à moi, c'est tout différent. L'instruction est close, ou pour mieux dire, elle n'a pas été ouverte. Ce n'est pas un magistrat qui t'interroge, c'est un ami. Mais tu as donc encore des doutes ? Non, je te crois incapable de mentir. Mais enfin, en donnant l'ordre de te relâcher... Je vais prendre une assez grosse responsabilité. Et si je te demande ce nom, c'est pas pour l'acquis de ma conscience. Mais comprends donc que toute la question est de constater que la femme qu'on t'accuse d'avoir tuée est encore en vie. Mais comment le constater, je te prie ? En la faisant appeler et en interrogeant toi-même ? Mais cela suffirait pour la perdre. J'aimerais mieux me laisser condamner à mort que de l'exposer à comparaître dans ce cabinet. Bon, je ne serais pas obligé de procéder ainsi. Si tu consentais à me dire « Il s'agit de madame une telle qui demeure dans telle rue à tel numéro », je me contenterais de m'informer discrètement et je saurais bien vite à quoi m'en tenir sur son existence. « Oh, mais non, tu n'en serais pas beaucoup plus avancé, mon cher Hugues. Car enfin, si j'étais coupable, et si pour me disculper, je te nommais une femme qui n'a jamais été ma maîtresse, tu t'en tiendrais là ? » ?»« Bon, ce serait une infamie dont je ne te crois tout à fait incapable. Et en vérité, je ne vois pas ce que tu peux craindre en me disant la vérité. » C'est donc que tu doutes de ma discrétion ou tu te défies de mes intentions ? Non, pas le moins du monde. Mais tu as reconnu toi-même que dans le cas où je me trouve, le silence le plus absolu s'impose à un galant homme. Oui, si je connaissais cette femme, car alors je pourrais la rencontrer dans le monde et si elle savait que je suis dans la confidence de vos amours, elle serait très gênée lorsqu'elle me verrait, mais... » « Eh bien, répondit le capitaine après avoir hésité, suppose qu'il en est ainsi. Suppose même, si tu veux, que tu es en relation suivie avec le mari. Le fait est que je me trouverais dans une situation embarrassante, dit en riant le juge d'instruction. Mais ce n'est qu'une simple hypothèse à laquelle je ne crois pas. Nous fréquentons, toi et moi, les mêmes salons, et parmi les femmes que nous voyons habituellement, je n'en puis soupçonner aucune. Avoue donc que tu as fait cette conquête en dehors du cercle de nos relations ordinaires. Tu vas dans une foule de maisons où je ne suis pas reçu parce que je suis resté magistrat sous la République. Et au Faubourg Saint-Germain, comme ailleurs, il y a des maris trompés. Saint-Briac se taisait et son visage contracté trahissait une violente émotion. Sais-tu bien, reprit de Malvern, que si je voulais, il ne tiendrait qu'à moi de découvrir ton secret. En ma qualité de magistrat, j'ai la police à mes ordres, et comme vraisemblablement tu ne resteras pas là avec ta maîtresse, je n'aurai qu'à commander à des agents de te filer, comme ils disent dans leur langage de policier. Oh, tu ne feras pas cela, je l'espère, dit vivement Saint-Briac, qui pâlissait à vue d'œil. Non, mon cher, je voulais simplement te montrer que j'ai quelque mérite à te croire sur parole. Et je t'avoue que tu m'as presque blessé en refusant de me dire ce nom que je voulais connaître. Mais à Dieu ne plaise que je te soupçonne d'avoir commis un crime abominable, toi que je vois tous les jours et que j'aime comme un frère. Je vais faire lever ton écrou, c'est l'affaire d'un quart d'heure. Rentre chez toi et viens dîner ce soir. Ma femme te grondera ferme et tu ne l'auras pas volé. Quoi, tu veux raconter cette lamentable aventure à Madame de Malvern ? Oh, je ne lui cache rien et elle ne me cache rien. C'est le meilleur moyen de s'entendre et nous nous entendons à merveille. Oh, mais tu devrais au moins ménager mon amour-propre. J'ai joué un rôle si ridicule. Je ne trouve pas. Tu t'es conduit qu'au contraire, comme un vrai chevalier. Tu as poussé le dévouement jusqu'à l'héroïsme, et je te garantis qu'au lieu de se moquer de toi, Odette t'admirera. Elle est faible pour les exalter. Bon, mais il doit te tarder de revoir ton entresol de l'avenue d'Antin. « Je vais te remettre ton exéate, » dit le juge en s'asseyant dans son bureau.